homme qui essaye par tous les moyens de développer ou son pouvoir ou le pouvoir de la nation. Mais un pouvoir qui est brut, qui est primaire. Chaque fois que l'on parle d'institution religieuse ou politique, il faut savoir que l'on a affaire en premier lieu à la notion de pouvoir. La spiritualité ne peut pas tenir sans la notion de pouvoir, même si en fait la spiritualité semble être avant tout une vibration d'amour et de baptême. Cependant, ce qui maintient l'organisation d'une spiritualité, ce qui lui permet d'être organisée, d'être une église, c'est avant tout le pouvoir qui va caractériser cette religion ou cette spiritualité. Mais le pouvoir à l'intérieur de la spiritualité est un peu différent. Quoique quelquefois, et l'histoire l'a démontré, il y a des hommes de la religion qui sont en fait de purs politiciens et qui en fait n'ont rien à faire dans la spiritualité. Mais ce sont là les erreurs du temps et les erreurs d'une civilisation. Donc, lorsque vous contemplez le monde, il ne faut pas simplement se dire « il y a la politique d'un côté et la politique nous embête, on n'en veut plus, je n'irai pas voter, je n'irai pas soutenir l'organisation politique d'un pays, je veux qu'ils comprennent que cela suffit, qu'il faut simplement penser à organiser la vie comme un grand partage. L'idée est bonne, mais elle n'est pas encore possible. » Il ne faut pas se dire, il y a l'économie d'un côté et l'économie, je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas que l'on me parle d'exploitation, de spéculation, de bénéfices. C'est une horreur, c'est contre les principes du Christ. Et donc, je me retire de ce monde-là pour aller tout simplement vers la spiritualité, que je considère comme étant la voie et la seule expression de la vie. Alors à ce genre de disciple, je dis, tu fais erreur. Et je ne dis pas que pour rectifier ton erreur, demain tu dois t'investir dans la politique ou t'investir dans le social. Absolument pas. Mais tu dois simplement faire ce qui est à faire, puisque tu appartiens à la nation et à la société. Et dans la mesure où tu t'es introduit dans la société, ou dans l'institution, puisque tu as une lumière supplémentaire, puisque tu as un état d'esprit différent et plus ouvert, plus lumineux, alors essaye de transformer l'institution à qui tu reproches toutes sortes de choses. Alors tu peux me rétorquer, mais j'admets ton programme, il est bien beau, mais il se trouve que l'institution est parfois tellement lourde que l'institution est articulée par un nombre tellement impressionnant d'individus qui sont bloqués, qui ne pensent qu'à l'argent. Alors que veux-tu que je fasse, moi, qui suis tout simplement au guichet à l'intérieur de la banque? Je ne suis pas celui qui est à la tête de la banque et qui va décider que maintenant l'argent sera distribué différemment. J'accepte ton objection et je la trouve logique, mais elle est logique pour ton degré d'intelligence et pour ta vision des choses. Elle n'est pas du tout logique pour ma vision des choses. Je te dirais que il y a plusieurs façons de créer des impacts. Lorsque l'on est un individu seul à l'intérieur d'un système qui semble lourd et gigantesque, il semble que seulement une bombe atomique pourrait commencer à ébranler les murs de ce genre d'institution. Il faut savoir que, à ce moment-là, tu dois agir comme agit la goutte d'eau que l'on met dans le désert. Il ne faut pas regarder le désert qui est en face de toi et te regarder toi-même comme n'étant qu'une goutte d'eau et conclure qu'une goutte d'eau dans le désert sera très vite asséché et que le désert n'en sera pas pour autant transformé. Si tu conclus cette chose, c'est que tu ne connais pas la nature exacte de la goutte d'eau. Si tu penses à l'eau connue sur la terre, alors tu te trompes. Mais comme je l'ai dit mille fois, ne pense pas avec ton mental concret. Pense avec ton mental intuitif. Et essaye de découvrir ce qu'est l'eau. Et ainsi tu comprendras mieux aussi l'air qui vient. L'eau en tant que symbole cosmique, c'est de l'esprit. Donc il ne s'agit pas pour toi de t'épuiser à l'intérieur d'un désert, de prononcer des mots dans le vide et de rayonner des forces dans les ténèbres. Il s'agit bel et bien de commencer à l'inverse de ce qui existe, commencer à constituer une nouvelle forme pensée. Toi, par exemple, tu es dans la banque et tu as horreur de la façon dont on distribue l'argent, dont on gère l'argent. Et tu te dis, mais moi, je ne peux rien faire. Bien sûr, tu ne peux pas, dès demain, obtenir de la banque que ses règles soient différentes. Mais tout en faisant ton travail, tu peux penser à un comportement différent. Tu peux penser à de nouvelles règles. Et si toi, tu commences à penser de la sorte, admettons que tu sois le seul au monde à ce moment-là, tu es un petit point de lumière. Et un petit point de lumière est une force, c'est un aimant. Et cet aimant va commencer à exercer sa force d'attraction. Automatiquement vont venir vers cette particule de la pensée d'autres particules de pensée qui pensent de la même manière. Même si tu ne rencontres jamais les hommes qui sont dépositaires de cette particule de pensée. Cependant, au niveau invisible, au niveau des auras, on verra que toi qui travailles dans la banque à cet endroit-là, tu as ce comportement. Et puis dans un autre endroit de la ville, quelqu'un qui travaille simplement aux caisses d'un supermarché pense aussi de la même manière. Et vous ne vous rencontrerez jamais, mais vos particules de pensée sont en contact. Et commence à créer l'égrégore d'une nouvelle économie, d'une nouvelle gestion. Et c'est sur cet impact-là, sur cette magie-là qu'il faut sans cesse compter pour passer d'une institution à une autre. De la même manière, on peut donc imaginer que de fausses institutions naissent, puisqu'il s'agit tout simplement du pouvoir d'attraction de ces particules de la pensée, il est facile de comprendre qu'il y aura des particules positives qui suivent le plan, qui déclenchent l'évolution, et il peut y avoir aussi des particules négatives qui vont faire tout le contraire de l'évolution, qui vont créer la dictature, l'exploitation, l'esclavage, le meurtre, la torture, etc. Il n'y a donc pas dans l'acte de la création de Dieu, il n'y a donc pas un voile qui a été mis sur les bonnes particules et les mauvaises particules. Parce que tout simplement, le choix entre le bon et le mauvais ne s'est pas fait, puisque le bon et le mauvais n'existent pas en tant que principe cosmique. Simplement, il y a des particules qui sont très profondément enfoncées dans la matière, et dans les attraits de la matière dense. Et il y a des particules qui commencent à s'éthériser et à être donc capables de recevoir des énergies de plus en plus cosmiques au lieu de recevoir simplement les énergies de la Terre. Et quand je dis cette chose, il ne faut pas croire que les énergies qui viennent de la matière sont systématiquement de mauvaises énergies, des énergies infernales, qui ne conduisent l'homme que dans les instincts et les défauts. Non, la matière elle-même est une substance cosmique. Donc, ce n'est pas la matière qui envoie de mauvaises énergies, mais c'est tout simplement le fait que la particule de la pensée, la particule de l'âme, est prisonnière à l'intérieur de la cristallisation de la matière. Et sitôt que la particule de la pensée commence à décristalliser la matière, et pour cela il faut avoir de l'amour pour cette matière. Donc la voir et la comprendre en tant que substance cosmique et non pas en tant que substance infernale, automatiquement la décristallisation a lieu. Et autant que la décristallisation s'opère, la spiritualisation est redécouverte. Et c'est ce que l'homme appelle l'évolution. Mais cela n'est pas une évolution, c'est un mouvement. Comme je l'ai déjà dit si souvent, on utilise des mots qui impliquent des concepts, qui ne sont pas du tout des concepts spirituels. Puis, avec ces mots, avec ces concepts, une philosophie naît. Mais cette philosophie n'est pas du tout la philosophie du maître ou la philosophie du cosmos. Mais c'est la seule philosophie que l'homme est capable d'entendre et avec laquelle il va pouvoir travailler pour se dépouiller suffisamment afin de soupçonner la philosophie du maître et du cosmos. Donc, quand vous regardez le monde, il ne faut pas penser qu'il y a la matière et le mauvais piège que représente cette matière avec toutes ses institutions politiques, économiques, et que de l'autre côté, il y a l'esprit avec la ronde des messies et des prophètes. Il faut voir qu'il y a tout simplement des particules qui se sont cristallisées à l'intérieur de la matière et que de ce fait-là, leur matière aussi s'est cristallisée. Chaque fois que l'esprit descend à l'endroit où il sait que la densité sera telle qu'un feu gigantesque va être créé, eh bien autant que l'esprit se cristallise, la matière aussi se cristallise jusqu'à devenir un jour la matière que vous connaissez. C'est pour cela que je mets souvent l'accent sur tout le mouvement de l'involution afin de comprendre toute l'évolution. On ne peut pas comprendre l'évolution si on part simplement du point zéro que représente l'incarnation humaine. On ne comprend ni le but de l'homme, ni le but de Dieu, ni la nature de Dieu. Et l'on est incapable même d'avoir un peu d'amour pour la matière. Et puis ensuite, si l'on s'aperçoit de toutes les contradictions et de toutes les aberrations d'une telle philosophie, on devient incapable un jour d'aimer Dieu parce qu'on se dit « je ne peux pas aimer un Dieu qui est en fait un tortionnaire et qui prévoit un jeu qui n'est qu'un piège pour l'homme où il vivra de grandes souffrances ». Donc il faut commencer par comprendre qu'il n'existe aucun piège et aucune matière, comme si la matière était ce que Dieu avait prévu pour y enfermer l'homme. Il faut tout simplement voir la vie de l'univers comme étant un grand mouvement, un mouvement qui descend à un point de cristallisation. Vous pouvez dire, il descend dans la matière, bien sûr, vous pouvez dire la chose. Mais pour nous, c'est un point de cristallisation. Et j'en veux pour preuve le fait que les cristaux existent sur votre planète. Et que les cristaux sont la forme la plus dense de la matière. Il y a donc un mouvement qui descend. Et pour être descendu à son point de cristallisation, le plus intense, le mouvement ensuite commence à remonter. Tant que le mouvement descend, l'Esprit de Dieu se connaît encore lui-même. Dès qu'il est à l'endroit de cristallisation le plus fort, il ne se connaît plus lui-même. Et c'est là que intervient la création de tous les règnes et de l'homme. Et c'est là que l'homme devient le collaborateur de Dieu. Et le sauveur de Dieu. Car il n'y a que par la participation de l'homme, la collaboration de l'homme, l'alchimie de l'homme, la force, la volonté, l'amour de l'homme, que Dieu arrivera à se tirer de cette matière. Bien sûr, c'est grâce à l'homme, mais il ne faut pas oublier que Dieu, ou sa particule divine, va l'aider aussi dans ce travail-là. Mais la particule enverra une aide depuis le haut, alors que l'homme va envoyer l'aide depuis le bas. C'est-à-dire que l'esprit va envoyer l'aide en tant qu'adombrement d'énergie, bénédiction, intuition, alors que l'homme va envoyer son aide en tant que maîtrise et libération. C'est l'homme qui libère Dieu. Ce n'est pas Dieu qui libère l'homme. Si c'était Dieu qui libérait l'homme, depuis longtemps, il aurait libéré tout le monde. On dit bien que Dieu est amour, alors comment imaginer qu'un Dieu d'amour puisse avoir la patience et le sadisme de regarder pendant des millénaires ses enfants souffrir, mourir, prier une multitude de dieux, faire même des rites où il y avait des sacrifices. Un tel Dieu, si vous le dites, un Dieu d'amour, ne peut pas exister. Donc cela veut dire que c'est l'homme qui libère Dieu, et non pas Dieu qui libère l'homme. Bien sûr, vous pouvez me dire, mais alors où existe Dieu dans cette histoire? Et vous pouvez me dire, tu sais, Dieu, le Père des hommes, celui qui est resté au ciel, celui qui envoie les messies, celui qui ordonne aux archanges de faire ceci, cela. Bien sûr, ta question est légitime, mais si je réponds, j'ai peur de te donner un frisson immense dans le dos. Arrives-tu à accepter? Et n'imagine pas qu'en disant cette chose, je sois un diable, bien que si tu l'imagines, cela m'est égal. Arriveras-tu à accepter que Dieu n'existe pas? Peux-tu l'imaginer un instant? Rien qu'un instant, comme si tu me donnais juste une seconde pour participer à ma philosophie, sans que tu sois obligé d'adhérer à ma philosophie. Si je te retire ce Dieu, tu te sens d'un seul coup tout seul dans l'univers. Tu ne comprends pas pourquoi alors d'autres initiés ont dit que tout était organisé, que Dieu vivait dans le soleil, qu'il existe un plan, qu'il existe des initiations, qu'il existe le roi du monde, qui est là à chaque initiation, qu'il existe des épreuves. Comment alors aussi comprendre la parole du Messie qui disait que le Père était au ciel? Bien sûr, tu peux me donner toutes ces objections, mais alors je te demande, as-tu bien compris la parole de Jésus, puisque tu me parles de lui? As-tu bien compris la parole de Bouddha, puisque tu me parles de lui? Es-tu certain que quand Jésus disait « Notre Père qui est aux cieux », il faisait allusion à une entité qui se trouve dans l'univers, quelque part très loin? Étant donné qu'il parlait de l'homme comme étant le temple de Dieu, est-ce qu'il ne s'agissait donc pas de parler des cieux intérieurs? Est-ce que tu ne penses pas que peut-être il s'agissait de ces cieux-là, et non pas d'un ciel qui serait à l'extérieur de toi, quelque part dans le cosmos? Et d'un seul coup, il te semble, quand je te dis cette chose, que l'univers devient étroit, petit, tu étouffes. Ou il était très grand et il fallait que tu le remplisses de Dieu, ou alors je te dis l'univers c'est toi et il devient petit, si bien qu'il te semble que tu deviens trop étroit pour la vie que tu sens vibrer en toi, en toi-même. Et ce jeu dans ton esprit m'amuse énormément. Non pas parce que je veux me moquer de toi, mais parce que si tu continues, si tu fais un pas supplémentaire, alors tu arriveras exactement à comprendre la pensée de l'initié, la pensée du maître. Et tu arriveras à comprendre qu'il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur. Qu'en fait, l'espace n'existe pas. Et tu peux me dire, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Tous les samedis soirs, je prends mon télescope et je vois bien qu'il y a Jupiter. Et j'étais bien sur Terre quand les hommes ont commencé à envoyer des satellites, des fusées, et maintenant des navettes. et il faut bien du temps pour aller jusque vers la lune. Donc tu ne peux pas me dire que l'univers n'existe pas. Bien sûr, si tu raisonnes avec ton mental concret, tu peux me dire que l'univers existe. Et alors je suis obligée de te laisser croire à Dieu. Et je suis obligée de te laisser remplir cet univers avec Dieu. Et je suis obligée de laisser la terre se remplir de hiérarchie. Je suis obligée de laisser ta société se remplir de religion, d'institution. Et une fois que je te laisse remplir l'univers, la terre et la société de toutes ces choses, après tu lèves les yeux au ciel et tu me reproches tout ce que tu viens de mettre dans l'univers, sur la terre et dans la société. Et tu me dis ça ne va pas. Quelle que soit la beauté et la grandeur de Jésus, son Église ne me convient plus du tout. Je ne veux pas du catholicisme, ça ne me va pas. Quelle que soit l'organisation de la société, ça ne me va pas. Quelle que soit l'organisation du cosmos, ça ne me va pas du tout, parce que rien ne me garantit qu'une comète un jour ne viendra pas s'écraser sur la Terre. D'ailleurs, c'est ce que certains soupçonnent à propos du désastre de l'Atlantide comme étant une des causes de sa disparition. Il faut dire que quand un malheur s'abat quelque part, il ne vient jamais seul, il est toujours accompagné d'une multitude de petits frères. Donc il est inutile de jurer que l'Atlantide a été détruite grâce à ça ou à cause de cela. Il faut penser qu'une multitude de choses sont venues s'abattre. Donc, lorsque tu vas aller très loin dans la philosophie et dépasser la philosophie pour obtenir en fait la pensée pure, la contemplation du concept à l'état pur du concept qu'est la vie, il faut que tu acceptes que Dieu n'existe pas. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, cela ne convient pas à tout le monde. Et c'est pour cela que, en d'autres lieux, je dis que Dieu existe. Puisque tu existes, c'est que Dieu existe. Simplement, il faut que tu cesses de croire que Dieu est ailleurs, que l'espace est hors de toi, que tout l'univers est hors de toi, ailleurs qu'à l'endroit où tu te trouves. Si tu penses de la sorte, tu vas déifier l'univers. Et tu vas en même temps avoir de la superstition. Et pour aimer ton Dieu, il te faudra des prières, une statue qui le représente. Et plus les statues seront nombreuses, et plus tu seras content et dévoué. Mais si tu acceptes, en un éclair et en un instant, que Dieu n'existe pas, tu es obligé, puisque toi tu sais que tu existes, tu es obligé de ne t'en référer qu'à toi-même. Et puisque je te dis que tu es la divinité, tu ne peux que conclure que toute la vie, tout l'univers et l'entier de Dieu est en toi. Et de ce fait, tu n'arriveras même plus à penser que l'autre, celui qui est assis à côté de toi, est différent de toi. Tu n'arriveras même pas à remarquer qu'il existe toi et un autre. La vie devient d'un seul coup une parfaite unité. Vois-tu, l'espace est le plus grand des mirages qui existent. Tu ne me croiras pas quand je te dis que l'espace n'existe pas, n'est-ce pas? Tu veux bien admettre philosophiquement que peut-être, bon, c'est vrai, Dieu n'est pas au ciel, il est dans le cœur. Mais si je prends quelque chose de matériel et que je te dis cette chose n'existe pas, cela fait friser tes cheveux et tu n'arrives pas à me croire. Et pourtant, c'est vrai. L'espace n'existe pas. Alors tu peux me dire, mais arrête de me répéter cette chose. Je suis conscient que si je veux aller sur la Lune, je dois monter dans une navette, et cette navette doit être alimentée par un carburant, et je dois franchir des kilomètres et des kilomètres pour poser le pied sur cette planète. Bien sûr. Tu peux imaginer la chose comme cela. Comme tu peux imaginer que, par exemple, l'espace qui sépare ta tête de ton pied est un grand espace et qu'il te faut pour franchir cet espace te mettre dans un véhicule que tu conçois expressément pour la chose, tu peux imaginer que tu dois utiliser ce véhicule. Et pourtant, tu sais très bien que l'espace qu'il y a entre ta tête et ton pied n'est que l'espace de ton corps et qu'il suffit pour atteindre ton pied que tu baisses la tête ou que tu tendes ta main. Et tu n'as pas besoin de créer un véhicule pour aller rendre visite à ton orteil. De la même manière, la Lune n'est pas loin de toi. Ni Jupiter, ni le Soleil ne sont loin de toi. Par contre, sitôt que tu te localises en un point de l'espace et que tu te dis « je me tiens à ce point de l'espace et j'évalue les distances qui me séparent des autres points de l'espace », alors c'est vrai qu'il te faut des véhicules pour t'y rendre. Mais si tu développes, comme je viens de te l'expliquer, le sens de l'unité en toi, si tu cesses d'imaginer qu'il existe Dieu à l'extérieur, qu'il existe un paternel au-dessus de toi, et qu'au contraire, tu mets cette divinité à l'intérieur de toi, comme si à l'intérieur de toi se trouvait tout l'univers, à partir de ce moment-là, tu peux être sur la Lune en même temps que tu es sur Terre. Et tu vas me dire, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir un pied d'un côté et l'autre pied de l'autre. Bien sûr, si tu ne regardes que tes pieds, tu pourras m'en faire la remarque, mais je te l'assure, tu peux être et sur la Terre et sur la Lune en même temps. Et comment cela va se passer? Bien sûr, je vois ton esprit qui est en train d'imaginer, bon, j'aurai le corps sur la Terre, tandis que mon esprit appartiendra à la Lune. Et je penserai avec les idées de la Lune. Ce n'est pas tout à fait ça. Parce que pour arranger cette philosophie, pour arranger l'idée que je viens de te soumettre, tu sépares encore ta nature. Tu te dis, il y aura mon corps d'un côté, mon esprit de l'autre. Et tu sépares une nouvelle fois. Il n'est pas question de séparer. Tout simplement, tu auras tout compris quand je vais t'expliquer ce qu'est une planète. Une planète n'est pas un point dans l'espace. Une planète est un atome, rien de plus. C'est l'atome le plus physique de l'aura d'une entité gigantesque. Ce qui fait que si tu considères être à l'intérieur d'une aura, d'une entité, tu peux te trouver en n'importe quel point de son aura. Tout simplement parce que la vibration n'a pas de limite et ne connaît pas d'espace. La vibration se répand partout. Tu sais très bien que, par exemple, ta propre aura peut avoir entre 3 mètres et 10 mètres de circonférence, de rayonnement. Donc, pour un homme qui se trouve éloigné de 10 mètres, s'il imagine qu'il veut te joindre et qu'il est un homme profane, il va dire « je vais devoir marcher les 10 mètres qui nous séparent ». Si cependant il est un homme, lui aussi réveillé, dont l'aura fait aussi 10 mètres d'envergure, automatiquement les deux auras vont rentrer en contact. Et là il se passe toute la communication est le principal de la communication, le principal de l'amour et le plus fort de l'amour. Ce qu'ensuite les deux atomes denses vont pouvoir se dire ou se faire, cela n'intéresse personne. Cela est même ridicule. Qu'est-ce que deux atomes physiques peuvent se dire et peuvent se faire? Rien du tout. Car ils sont simplement le point d'ancrage du rayonnement. Ils ne sont pas l'endroit où le rayonnement est le plus fort. Donc, quand tu imagines l'espace, il faut Il faut suivre le développement de l'idée que je viens de citer et l'imaginer comme étant la même chose que ces deux auras qui de toute manière se superposent, quelle que soit la position des atomes physiques que représentent les planètes. Ce qui fait que tu peux être dans l'aura de la Lune si sur la Terre tu te réveilles à l'aura de la Lune. Parce que l'aura de la Lune vient jusque dans les pourtours de la Terre. Et de même pour l'aura de Jupiter, de Saturne, du Soleil. De même aussi pour l'aura de ce que l'on appelle les dimensions supérieures. On dit toujours les dimensions supérieures, comme s'il s'agissait d'aller à un étage supérieur. Mais l'aura des dimensions traverse toutes les planètes, touche toutes les planètes. Tu as donc l'occasion et la possibilité, à l'instant même de ton incarnation, de vivre une vie solaire alors que tu es sur la Terre. Tu n'as pas besoin d'attendre que tu te désincarnes pour aller vivre dans le soleil. Tu peux vivre une vie solaire ici et maintenant. À partir du moment où, en étant incarné, tu te sensibilises et tu t'élèves jusqu'à l'endroit où vibre l'aura du soleil ou l'aura de Jupiter. Et c'est quelque chose de faisable. Il faut tout simplement que tu fasses un développement, c'est-à-dire que tu réveilles en toi les couches de l'aura qui vont pouvoir entrer en communication avec l'aura du soleil. C'est un peu comme si en toi il existait déjà l'aura solaire. Et qu'en la réveillant, eh bien cette aura solaire va vivre à l'intérieur de l'aura du soleil. Si bien qu'il te semblera à un moment donné que tu n'auras même pas réveillé ton aura solaire, mais que tu auras simplement réveillé ta vie au niveau solaire. Ou bien que le soleil est entré en toi, si bien que tu n'arriveras plus à penser qu'il existe un extérieur, des pensées qui vont t'amener à vivre à l'extérieur. Tout cela n'aura plus lieu. Il y aura tout simplement une seule et même vie, mais vue de manière différente. Ce n'est pas parce que tu vois les choses de manière différente que ces choses existent dans leur différence. Si tu admets cela, alors tu commences à devenir sage et tu m'intéresses. Je n'aurais pas parlé pour rien, même si j'arrêtais mon discours maintenant. Ce n'est pas parce que tu vois, par exemple, qu'existent des arbres, que les arbres existent tels qu'ils t'apparaissent. Alors tu peux m'objecter que l'arbre existe véritablement et que tu l'as touché, que tu en as fait le tour et que de nombreux autres amis avec toi voient le même arbre. Et que si donc vous êtes des milliers à le voir, c'est bien parce que l'arbre existe. D'accord, tu peux voir cette partie de l'arbre qui te permet de le nommer, de le reconnaître comme étant arbre. Mais cela ne veut pas dire que la vérité à propos de l'arbre s'arrête là et que tu connais l'arbre. Absolument pas, tu ne connais rien. Car si tu le connaissais véritablement, tu saurais travailler avec lui et tu ne serais plus malade pour commencer. Tu ne serais plus jamais déprimé, maussade. Tu saurais tirer hors de lui la substance qui est son esprit et t'en enrichir comme d'une nouvelle sève. Et au printemps, au moment où lui-même retrouve la vie, toi aussi tu retrouverais une vie nouvelle et plus forte. Et chaque fois, un grand rajeunissement. L'homme a commencé à couper les arbres. Et l'homme a commencé à vieillir. Ce qui ne veut pas dire que dès demain, vous ne devez plus couper les arbres. Il y a une façon de couper l'arbre. Une façon de faire sortir l'esprit qui est dans l'arbre afin de le transporter ailleurs et d'utiliser son corps pour construire des maisons ou pour construire votre mobilier ou pour vous chauffer avec. Mais si vous assassinez l'esprit qui est dedans, automatiquement, vous appauvrissez votre propre espérance de vie. Et non pas parce que la vie de l'homme et la vie de l'arbre sont très liées, mais tout simplement parce que l'homme se prive ainsi de savoir se rajeunir. Alors tout de suite, bien sûr, les esprits peuvent être très curieux et me demandent, mais comment est-ce que l'on peut se rajeunir avec un arbre? Indiquez-nous la recette. Bien sûr, je peux t'indiquer la recette, mais il faut savoir que tu ne vas pas forcément savoir l'appliquer ou pouvoir l'appliquer. Tout simplement parce que pour collaborer avec un arbre, il faut pouvoir intuitionner l'arbre et intégrer la vie de l'arbre. Et l'homme d'aujourd'hui est par trop matériel, ce qui fait qu'il n'a plus la possibilité de rentrer en contact avec la nature. Alors je peux tout de suite entendre des esprits déçus et qui vont me dire en baissant les bras, « Zut alors, voilà encore une bonne occasion de rater ». Vous ne ratez pas les bonnes occasions. Mais disons que si vous pratiquez la chose, ce sera une bonne manière de commencer à déployer votre aura, même si vous n'arrivez pas à vous rajeunir avec ce rituel. Alors, comment se construire une éternelle jeunesse grâce aux arbres? Il y a d'autres moyens, bien sûr, et je ne parle pas des moyens de l'initié, des moyens du maître, celui qui veut rester sur terre, car il y a des initiés, il y a des maîtres qui n'ont rien à faire de rester sur terre, et donc ils laissent tout simplement le cycle de la nature avoir lieu. Mais pour ceux qui veulent s'ancrer sur la terre et dans le même corps, parce qu'ils ont besoin de ce corps-là, ils ne veulent pas se réincarner une nouvelle fois. Pour ces êtres-là, la technique est différente. Ce n'est donc pas la technique du maître dont je vais vous parler, mais de la technique de l'homme avancé. C'est ce que faisaient les druides autrefois. À un certain moment astrologique, c'est-à-dire à la nouvelle lune et aussi à la pleine lune, les anciens disciples, les anciens initiés allaient prélever ce que l'on peut appeler le pollen de l'arbre. Ils rentraient dans leur laboratoire et faisaient une préparation avec ce pollen. Ils allaient, pour cette préparation, chercher d'autres plantes, et généralement des plantes amères. Comme par exemple, je citerai la camomille ou l'absinthe, ou des racines, par exemple la racine de pissenlit, ou la racine de certains arbustes. Ils prenaient tout ce qui était amer, et grâce à des dérivés du sucre, ou ce qui pourrait être aujourd'hui appelé du sucre, et qui était extrait de certaines autres racines, ils préparaient une petite substance, une macération. Et ensuite, ils ajoutaient le pollen frais à cette macération. Et ils laissaient la macération se reposer jusqu'à la prochaine lune. Et à l'instant de cette lune, ils faisaient un rituel dans la nature, et non plus à l'intérieur de bâtiments, car il s'agissait d'attirer les énergies de la nature, et non pas les énergies du Christ ou les énergies du maître ou de l'archange. Et par ce rituel, les énergies de la nature et les énergies des arbres étaient convoquées à venir se précipiter à l'intérieur d'un réceptacle. Et de là est né d'ailleurs le mythe et la légende du chaudron du druide. Mais en fait, ce n'était pas un chaudron, c'était tout simplement un réceptacle. Peu importe que ce réceptacle ait la forme d'un chaudron, d'une marmite ou d'une coupe, il fallait tout simplement un objet physique pour recevoir cette énergie. Et à ce moment-là, le maître du rituel, convoqué par des mots magiques, car il connaissait les clés, c'est-à-dire qu'il connaissait le signe qu'il y avait sur chaque espèce d'arbre. Exactement comme à l'heure actuelle, quelqu'un qui étudie la Kabbale connaît la lettre hébraïque qui correspond à chaque planète. Ce qui fait que lorsque l'on veut convoquer la hiérarchie d'une planète, il faut écrire cette lettre hébraïque ainsi que les nombres afin que la hiérarchie soit aspirée et se précipite à l'endroit où se trouve le magicien. De la même manière, le druide connaissait le sceau qui correspondait à chaque espèce d'arbre. Et il prononçait le nom du sceau et l'énergie de l'arbre se précipitait dans la coupe. Et lorsque la cérémonie était véritablement réussie, une sorte de rosée se déposait dans la coupe. Exactement comme si c'était la rosée du matin. Et cette rosée était la substance la plus précieuse de toute la préparation. Elle était ajoutée à la macération et chaque initié buvait le breuvage et ainsi ils étaient renouvelés dans leur force. Comme si en fait ils avaient réussi à tirer la sève de chaque arbre pour obtenir plus que la sève de chaque arbre. Pour obtenir l'énergie qui circule dans la sève. Et c'est ainsi que les initiés de ce rite-là, de ce temps-là, arrivaient à perpétuer leur vie de façon très longue. Et c'est comme cela que sont nés aussi des mythes à propos des initiés. Ce qui ne veut pas dire que chaque homme doit retrouver ce rituel, connaître le sceau de l'arbre pour pouvoir recueillir la rosée, préparer la macération et boire le breuvage de l'éternelle jeunesse. Cela n'est pas dans le destin de l'homme de vivre longtemps ou éternellement. Celui qui veut prolonger sa vie doit d'abord se demander ce qu'il veut faire de sa vie. Parce que dans de nombreux cas, la vie n'est pas forcément utile pour l'homme. Elle est tout simplement une occasion de faire davantage de bêtises, ou d'entretenir plus longtemps sa léthargie ou ses mauvaises pensées. Et c'est celui-là justement qui aura le plus envie de vivre et de prolonger sa vie. En fait, il est plongé dans une contradiction profonde, car pour lui, à ce moment-là, la vie c'est l'enfer, et il veut prolonger son séjour dans l'enfer. Mais à cela, il me rétorque, pour avoir raison d'exister, il me dit, c'est peut-être l'enfer, mais c'est la seule vie que je connaisse. Alors, puisque c'est la seule, je veux la garder. Bien sûr, tu peux penser de la sorte. Cependant, il faut savoir que dès que tu te désincarnes et que tu vois à quel point la vie est souple de l'autre côté, c'est toi qui ne veux plus t'incarner. Si bien qu'il faut te pousser, pour que tu acceptes d'entrer dans le sein de la mère, en son ventre, pour essayer de naître. Et des fois même, à l'instant où l'enfant sort du ventre, tu continues à refuser l'incarnation. Si bien qu'après, pendant toute ta vie, ton corps astral se trouve d'un côté, ton corps éthérique de l'autre, ton corps mental de l'autre, tandis que le corps physique essaye comme il peut de tenir l'équilibre et essaye de jongler avec tous ces corps qui sont décalés. Il est inutile de te dire que ta vie devient très difficile à ce moment-là. Et lorsque tu commences la spiritualité dans un tel état, le premier souci que tu dois avoir, c'est de créer l'alignement. Comme ça, tu te soignes et tu peux te destiner à une spiritualité, à une véritable progression. Alors que si ton corps astral est d'un côté, ton corps éthérique de l'autre et ton corps mental encore d'un autre côté, tu n'arriveras pas à progresser. L'énergie que tu recevras soit en priant, soit en méditant, ne fera que gonfler par exemple l'astral qui se trouve sur la trajectoire du rayon. Et tu vas devenir de plus en plus impossible. Ou d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, tu t'intéresseras à la magie exclusivement et tu deviendras quelqu'un de néfaste. Ou bien c'est ton corps mental qui va recevoir l'impact du rayon et c'est lui qui va se surgonfler. Et tu te croiras très intelligent, mais en fait tu ne commettras que critiques et mauvais gestes. Ou bien c'est ton corps physique qui va se surgonfler. Et tu te demanderas pourquoi tu es sous la domination des instincts, par exemple, et de toutes sortes d'appétits. Donc, première des réactions dans la spiritualité, c'est l'alignement. Et lorsque tu es aligné, ne sois plus le disciple aveugle et limité qui croit la foi des enfants, la foi de l'enfant qui dit « Notre Père qui est aux cieux », comme si les cieux étaient ailleurs, dans une autre dimension, comme si les cieux étaient au-delà de l'espace.